Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur prier seulement ne suffit pas. Dans Marc chapitre 11 et au verset 20, il est écrit « Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu. » Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Le Seigneur m'a montré qu'il est indispensable de passer du stade de croyant au stade de disciple. Être croyant, c'est déjà une bonne chose. Croyant en Dieu, on a donné son cœur au Seigneur, on a fait un premier pas de foi, et c'est très bien. Mais j'allais dire que Dieu veut que nous allions plus loin et que nous devenions des disciples. Des disciples, c'est-à-dire, c'est plus que des personnes sauvées, ce sont des personnes maintenant qui ont mis une discipline dans leur vie spirituelle, qui ont pris à cœur de prier tous les jours et qui méditent la parole de Dieu tous les jours. Ils sont devenus des disciples. Et j'ai remarqué ce verset dans Actes 11, 26, et ce n'est pas un hasard. Ce fut à Antioche, dit à la fin du verset, c'est dit, ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés des chrétiens. C'est bien les disciples dont il est question. Ce sont des fidèles, ce sont des gens qui sont disciplinés spirituellement, qui ont mis à la première place à Jésus et qui sont devenus des disciples. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Donc si vous n'êtes pas encore devenu un disciple, c'est la première étape à franchir. Arriver à vous discipliner spirituellement, à prier tous les jours, à méditer la parole de Dieu tous les jours. Parce que quand vous ne priez pas, en fait, vous vous affaiblissez spirituellement et vous n'avancez pas. Je prends l'exemple, si vous achetez une voiture ou vous avez une voiture, admettons, où on vous offre une voiture neuve, mais s'il n'y a pas d'essence dedans, s'il n'y a pas de carburant, cette voiture, elle peut être très belle, elle peut avoir toutes les options, mais elle n'avancera pas. Eh bien, la prière, c'est ce qui va dans notre vie être le carburant pour nous permettre d'avancer spirituellement et de faire la volonté de Dieu. Seule la parole de Dieu vous donnera des forces spirituelles. Pourquoi on dit de lire la parole tous les jours? C'est le meilleur aliment qui existe, c'est la parole de Dieu. Pour votre âme, il n'y a pas mieux. Pourtant, on voit qu'aujourd'hui, beaucoup cherchent ailleurs, en dehors de la parole, à gauche, à droite, ils s'épuisent. Mais si vous voulez des forces spirituelles, venez dans la parole de Dieu. Et une fois que vous êtes devenu un disciple, donc vous avez franchi ce cap, vous priez maintenant, vous avez compris que lire la parole c'est vraiment important, bien il nous faut réaliser que la prière seule ne suffit pas. Parce que certains disciples sont arrivés au stade de prier, oui, et ils pensent qu'après ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais il y a plusieurs éléments à ajouter à la prière pour qu'elle soit efficace. Le premier que je vois dans ce texte, c'est que Jésus nous demande d'ajouter la foi à la prière. Il dit, au verset 24, « Tout ce que vous demanderez en priant, donc il y a bien la prière, et c'est quelque chose que nous devons avoir dans notre vie, une prière régulière, mais il dit, croyez que vous l'avez reçu. » Et Jésus est en train d'expliquer qu'il nous faut ajouter la foi à la prière. Il ne s'agit pas de prier seulement, mais d'ajouter la foi. Dans le contexte, Jésus avait maudit un figuier à Béthanie, et on se rend compte que c'est un acte symbolique qui représente quelque chose. Quand il a maudit ce figuier, en fait, on sait que le figuier représente Israël et que les figuiers devaient donner des prémices, des fruits qui annonçaient la récolte. Or, quand Jésus s'est approché du figuier, il n'y avait pas les prémices, il n'y avait pas ces fruits qui annonçaient la récolte. Et c'est une image, quand Jésus a maudit ce figuier, pour parler d'Israël, Israël qui aurait dû produire les fruits, les prémices qui annonçaient la récolte, c'est-à-dire croire dans le Messie, faire confiance à Jésus. Et en fait, il n'avait que des feuilles, c'est-à-dire il n'avait que la superficialité, que l'apparence de la foi, mais pas la foi profonde. Et Israël n'a pas reconnu Jésus comme le Messie, il y a eu une sanction, et ça c'est prophétique, puisque ça s'est réalisé en l'an 70, lorsque le temple a été détruit par le général romain Titus, et tout cela est arrivé dans l'histoire, donc c'était un acte prophétique concernant Israël. Et Pierre, lorsque le lendemain il voit le figuier, il dit « Mais regarde Seigneur, le figuier que tu as maudit, il est séché jusqu'aux racines. » Pierre avait bien entendu Jésus prier, mais il avait du mal à croire que ce soit possible que le figuier soit séché jusqu'aux racines. Et il constate que oui, c'est possible. Il avait du mal à croire. Et c'est pourquoi Jésus dit « Oui, vous devez prier, mais ajoutez la foi. » Parce que si vous priez sans la foi, c'est comme si vous voulez allumer un feu, mais vous jetez de l'eau dessus. Vous priez, mais vous doutez. Et l'incrédulité, c'est comme si vous jetez de l'eau sur un feu. Donc le feu ne prend pas. Par contre, si vous avez la foi, vous pourrez espérer contre toute espérance. C'est dans Romains chapitre 4, verset 18. C'est l'exemple d'Abraham. Le texte dit « espérant contre toute espérance ». Il crut. Donc on voit bien qu'il est dans la foi, et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. Eh bien, avec la prière de la foi, nous pouvons arriver, comme Abraham, à espérer alors que tout semble désespéré. Espérer contre toute espérance. Tous les paramètres sont négatifs, peut-être vous avez prié, la situation n'a pas changé, c'est toujours tendu, c'est toujours difficile, le temps passe, plus le temps passe, plus la situation se dégrade, nous vivons ces choses. Mais nous pouvons encore faire la prière de la foi et espérer contre toute espérance. Vous n'aurez pas d'encouragement, vous n'aurez pas de visibilité, peut-être même votre conjoint n'y croit plus, vos amis vous ont abandonné, mais vous pouvez encore espérer contre toute espérance. Ça, c'est un don de Dieu qui nous permet de croire au-delà du naturel, de croire dans le surnaturel, dans le spirituel et l'intervention de Dieu. Même si vous êtes seul à croire, même si vous ne voyez rien, comme Abraham, vous pouvez espérer contre toute espérance. Si vous avez la foi aussi, le diable fera tout pour vous décourager. Parce qu'il sait très bien une chose, c'est que la foi associée à la prière, c'est puissant. Et surtout, il ne voudra pas qu'un chrétien associe la foi à la prière. Voilà pourquoi il va vous faire douter. Voilà pourquoi une mauvaise nouvelle va survenir. Peut-être la situation va se dégrader encore plus. Pourquoi ? Parce qu'un chrétien qui doute va devenir inopérant. Sa prière ne va pas être efficace, elle va tomber à plat. Et c'est pourquoi Jésus, lorsqu'il parle à Thomas, il le reprend. Thomas, c'est ce disciple qui a douté. Il lui dit, mais ne sois pas incrédule, Thomas. Ne sois pas incrédule, mais crois. Associons la foi à la prière. Et si vous avez la foi associée à la prière, vous pourrez regarder vers celui qui est invisible. Hébreux chapitre 11, verset 27. C'est par la foi, toujours la foi qui est nécessaire, qu'il quitta l'Égypte, il s'agit ici de Moïse, sans être effrayé de la colère du roi, c'était le Pharaon, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Ça c'est Moïse. Il prie dans la foi, il se tourne vers Dieu, il ne le voit pas, mais il regarde vers celui qui est invisible. C'est par les yeux de la foi. Moïse avait tué un Égyptien, il voulait secourir un Hébreu, il voulait faire du bien, mais il a été malmené, on l'a pourchassé, il a dû fuir en Madian pour sauver sa vie. Il était déjà appelé à faire sortir le peuple d'Israël, à libérer le peuple esclave, mais ce n'était pas le temps de Dieu, ce n'était pas la méthode de Dieu. Peut-être vous êtes confronté à des échecs, comme Moïse, c'était un échec, parce que ce n'était pas le moment, ce n'était pas la méthode. Il y a un temps de Dieu, et il y a la méthode que Dieu veut. Et ça va revenir plus tard, dans un deuxième temps de sa vie, mais entre-temps, il va apprendre la patience, il va apprendre l'obéissance, l'écoute de Dieu, il priait dans la foi. Mais en tout cas, il y a cette caractéristique chez Moïse qu'on doit retrouver chez les croyants, les disciples qui aiment le Seigneur, c'est que nous devons regarder vers celui qui est invisible et ne pas nous contenter de croire ce que l'on voit, de limiter nos yeux à la réalité superficielle. Levons nos yeux vers le Seigneur et regardons vers celui qui peut tout. Il est invisible, mais il est toujours là. Il n'a jamais abandonné Moïse. Moïse ne le voyait pas, mais Dieu était là. Dieu était avec lui dans ses combats, dans ses souffrances, dans ses déserts à Madian. Et c'est pareil avec nous. Nous ne le voyons pas, mais il ne nous a pas abandonnés. Il est là, il est fidèle. Et nous devons regarder vers lui, même si nous ne le voyons pas avec nos yeux. Eh bien, développons cette vision de foi. Ajoutons donc la première chose à ajouter à la prière, c'est la foi. Dans ce texte, il y a une deuxième chose qu'on voit tout de suite qu'il faut ajouter, c'est au verset 25. Si vous êtes debout faisant votre prière, donc il s'agit bien de la prière, et c'est voilà, quelque chose d'acquis maintenant, c'est un disciple, il arrive à prier, c'est bien. Mais si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. Et là, on se rend compte que Jésus nous demande d'ajouter le pardon à la prière. Le pardon. Si vous ne pardonnez pas aux autres, Jésus dit, mais vous ne serez pas pardonnés et Dieu ne vous pardonnera pas. Une fois qu'on a accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, on a été pardonné de nos péchés. La Bible dit que Dieu a jeté nos péchés au fond de la mer. Et c'est Corrie ten Boom qui a ajouté qu'il y a un écriteau, il a mis un écriteau avec marqué « péché interdit » pour ne pas revenir vers les péchés qui ont été pardonnés. Vous n'avez plus à vivre dans la culpabilité en portant encore les péchés qui ont été pardonnés. Ils ont été effacés, gloire à Dieu. Mais le diable viendra toujours vous rappeler vos fautes passées, vos échecs, vous mettre un fardeau sur les épaules. Alors rappelez-vous que vos péchés ont été pardonnés, s'ils ont été confessés, si vous avez demandé pardon, ils ont été effacés et que vous avez été pardonnés. Mais attention, maintenant que nous sommes pardonnés, nous devons aussi pardonner. Il ne s'agit pas de prier seulement, mais si tu as quelque chose contre quelqu'un, le texte dit, tu es là en train de prier, c'est bien de prier. Mais si tu ne pardonnes pas, la prière, elle ne sera pas agréée par Dieu. Par contre, si vous pardonnez aux autres, les autres vous pardonneront. Colossiens 3:13, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Quand on arrive à un pardon réciproque, c'est une belle victoire. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et quand on est rancunier, qu'on ne veut pas pardonner, alors on a beau prier, on a beau faire tout ce que la Bible nous demande, mais il n'y a pas l'obéissance à cette parole de Dieu. Et si on ne veut pas pardonner et on pense qu'on a raison et on dit tant que l'autre ne m'aura pas demandé pardon, je ne pardonnerai pas, et on s'enferme en fait dans une attitude de non-pardon, on devient un rancunier, qu'est-ce qui se passe? On désobéit à la parole de Dieu qui nous demande de pardonner. Pardonner. Et un pardon réciproque. Ça veut dire que les deux personnes qui sont en conflit arrivent à se pardonner l'un et l'autre. Et ça, c'est une belle victoire que le diable ne veut surtout pas. Car si le diable peut maintenir des chrétiens qui se divisent et qui se détruisent les uns les autres, eh bien ça détruit l'Église de l'intérieur. Mais ce que Dieu veut, c'est le pardon réciproque. Pas simplement un seul pardon, mais un pardon réciproque. Le pardon apporte la paix, le pardon apporte un nouveau départ, le pardon c'est une grâce. Mais Jésus dit, si vous ne pardonnez pas, vous avez fait votre prière, oui c'est bien, mais si vous ne pardonnez pas, sachez que le Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas non plus vos péchés. Donc on se met quand même sous une grosse difficulté en ne pardonnant pas, en refusant de tendre la main et en refusant de faire grâce. Donc on voit deux choses à ajouter. Premièrement, la foi. Deuxièmement, il est question ici du pardon. Et je rajoute un troisième élément, c'est l'obéissance. Il faut bien sûr prier, mais y ajouter l'obéissance. Dans le récit des 10 lépreux qui sont venus pour chercher leur guérison auprès du Seigneur, bien sûr, ils avaient prié, ils se sont tenus à distance, et ils ont prié le Seigneur, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Et c'est bien de prier. On est dans le besoin, on est dans une difficulté, on prie le Seigneur. Et là-dessus, pas de problème. Jésus leur demande d'aller se montrer au sacrificateur. Là, ils peuvent commencer à réfléchir et se dire, mais enfin, ils étaient encore lépreux. Normalement, dans la loi, c'était quand vous étiez guéri que vous alliez vous montrer au sacrificateur pour qu'il atteste votre guérison. Or, ils n'étaient pas guéris. Au moment où Jésus leur dit « Allez vous montrer au souverain sacrificateur », ils étaient toujours lépreux. Ils auraient pu raisonner en eux-mêmes et se dire « Mais cela n'a pas de sens. Nous devons d'abord attendre d'être guéris. Ensuite, nous irons voir le souverain sacrificateur. » Ils auraient pu attendre ainsi et ne pas obéir à Jésus qui avait dit « Allez vous montrer. Vous êtes encore malade, mais allez vous montrer. » Et finalement, ils ont décidé d'obéir et le texte dit que alors qu'ils étaient en chemin, ils étaient toujours donc lépreux, il arriva qu'ils furent tous guéris dans l'obéissance. Il y a eu la prière « Seigneur, aie pitié de nous, viens à notre secours ». Il y a eu une parole de Dieu, « Allez vous montrer au souverain sacrificateur ». Et il y a eu l'obéissance. Donc ils ont ajouté l'obéissance à la prière. On sait que Jésus explique que les 10 ont été guéris, mais seulement un qui était samaritain est venu vers Jésus, rendre gloire à Dieu. C'est pour montrer qu'il y a souvent peu de reconnaissance. Beaucoup de demandes, beaucoup d'attentes, mais peu de reconnaissance. Alors soyons reconnaissants envers le Seigneur quand il fait grâce, il agit, il est fidèle, mais obéissant quand il nous demande quelque chose, parce que si nous prions, mais nous n'obéissons pas, nos prières ne peuvent pas être agréées. Je vous donne un autre exemple, c'est Matthieu chapitre 7, verset 21. Jésus dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, » donc ils sont en train de prier, « Seigneur, interviens, Seigneur, fais grâce. » Ils prient. « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Qu'est-ce que Jésus enseigne? Vous pouvez prier, « Seigneur, Seigneur, » vous pouvez avoir même votre vie de prière tous les jours. Mais si vous ne faites pas la volonté du Père qui est dans les cieux, cette prière ne sera pas agréée. Même si vous priez tous les jours, par exemple, si vous priez, mais vous vivez en concubinage, vous désobéissez formellement à la parole de Dieu, votre prière n'est pas agréée par Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut d'abord obéir à la parole de Dieu, c'est-à-dire de vous marier, d'être fidèle aux enseignements de la parole, vous soumettre à Dieu pour que cette prière soit agréée de Dieu. Dieu prend plaisir à celui qui fait sa volonté. Mais si nous continuons à vivre dans le péché, si nous n'obéissons pas, nous disons « Seigneur, Seigneur », mais nous ne faisons pas sa volonté, bien alors, ces prières-là, elles ne sont pas agréées par Dieu. Alors, certains ne comprennent pas, mais pourquoi ma prière n'est pas agréée? Mais quand vous discutez avec eux, vous voyez qu'ils ne se soumettent pas à la volonté de Dieu et qu'ils veulent vivre selon leur plaisir à eux, selon leur désir. Bon, à ce moment-là, cette prière, sachez-le, elle ne sera pas agréée. Par contre, Job dit dans Job 23, verset 12, « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Et à un moment donné, si vous voulez que votre prière elle soit efficace et agréée par Dieu, il faut faire plier notre volonté à la volonté de Dieu, et ainsi avoir l'obéissance dans notre vie. Je pense encore à l'humilité, c'est un autre texte dans Jacques chapitre 4, verset 13, un autre élément à ajouter à la prière, Jacques chapitre 4, verset 13, dit ceci, et là il s'agit d'ajouter l'humilité. « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses, c'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Et ici, Jacques nous parle d'ajouter l'humilité à la prière. Parce que si vous êtes humble, en fait, déjà, vous réalisez que votre vie n'est que poussière, qu'on n'est que de passage sur cette terre, et ça va nous maintenir dans la dépendance de Dieu. Il n'y a rien de pire que de devenir orgueilleux et suffisant. Votre vie n'est qu'un souffle, dit le texte. Elle n'est qu'une vapeur. Et quand on oublie cela, qu'on se croit arrivé, qu'on est quelqu'un, eh bien, ça ne plaît pas à Dieu. Dieu aime qu'on se tienne devant lui et qu'on réalise tu n'es que poussière, tu n'es rien, tu n'es qu'une vapeur, qu'un souffle, fragile. Personne, même aujourd'hui, ne peut être certain qu'il sera encore vivant demain. C'est ça l'humilité. C'est réaliser que nous sommes des créatures mortelles. Nous sommes très fragiles. Il y a même trois mots hébreux pour désigner l'homme. C'est Adam, Ish et Enoch. Et j'ai regardé le sens littéral de ces trois termes hébreux. Adam, ça signifie la poussière, la terre. On voit vraiment que c'est fragile. Ish, ça signifie être faible, fragile, souffrant. On voit encore toute la fragilité de l'être humain. Et puis Enoch, mortel, périssable. Donc, nous devons réaliser la brièveté de la vie et rester humble. Et le texte dit ici que si nous prions humblement, nous ajouterons à nos prières, si Dieu le veut, si Dieu le veut, nous ferons ceci, nous ferons cela. Mais notez bien, c'est pas nous qu'allons imposer à Dieu, Dieu il faudrait que tu fasses comme ci, Dieu il faudrait que tu fasses comme ci. Si Dieu le veut. On ne peut pas imposer à Dieu notre calendrier. On ne peut pas imposer notre rythme, nos décisions à Dieu. Ça, c'est pas humble. Humble, il va dire, mais si Dieu le veut, c'est-à-dire le temps appartient à Dieu. Parce que vous avez peut-être l'impression de perdre votre temps et de dire, mais Dieu n'agit pas, Dieu n'intervient pas. Mais vous ne pouvez pas forcer Dieu à agir plus vite. Je prends l'exemple de Lazare lorsqu'il était malade. Jésus apprend qu'il était gravement malade. Il allait mourir. Et les disciples le pressaient, mais il faut aller le voir. Mais Jésus resta encore 2 jours dans le lieu où il était. Il resta 2 jours. Ce qui n'est pas très logique sur un plan humain. On pourrait se dire, c'est son ami. Lazare va mourir, il va faire quelque chose, il va venir le voir vite. Or, quand il arrive à Béthanie, donc longtemps après, il y avait 4 jours que Lazare était déjà mort. Et là, il reçoit les reproches. Premièrement, Marc qui lui dit, mais Seigneur, si tu avais été ici, si tu étais venu plus tôt, mon frère ne serait pas mort. Les reproches. Marie lui fait le reproche. Le même que sa sœur. Si tu étais venu plus tôt, mon frère ne serait pas mort. Personne ne comprend l'attitude de Jésus. Pourquoi a-t-il tardé? Les Juifs qui sont sur place, qui font le deuil, ils font le reproche à Jésus. Jean 11, 36. Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? S'il était arrivé plus tôt, s'il était venu plus vite, il aurait prié. Vous voyez, en fait, c'est comme si on commandait Jésus de faire ce que nous voulons. Et personne n'a pu commander Jésus de faire autrement. Il avait décidé de rester 2 jours où il était, et il a mis 2 jours de plus, ça faisait 4 jours. Mais personne ne pouvait lui imposer de venir plus tôt. Ce n'était pas possible. Et on ne peut pas commander le Seigneur de venir plus tôt. Alors peut-être on va faire des reproches, parce qu'on ne comprend pas. On dit, Seigneur, pourquoi? Ô Dieu, on a prié, tu n'es pas intervenu. Mais Jésus savait que s'il venait plus tard, c'était pour une autre bénédiction que la guérison, c'était pour la résurrection. Et ça, personne ne le savait. Or, on ne peut pas forcer Jésus à agir autrement. Et si on est humble, on dira, Dieu, nous prions, mais si tu le veux, si tu le veux, si tu le veux, tu le feras. Si on est humble, on acceptera le temps de Dieu, qui n'est pas le nôtre, et on persévérera dans la foi. Si on est humble, on va soumettre nos projets à Dieu en disant, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, c'est la prière que Jésus nous a enseignée. C'est une prière d'humilité, de dire que ta volonté soit faite et non la mienne. Que ta volonté soit faite. Même dans la prière du Notre Père, nous devons accepter que Dieu règne et que c'est sa volonté qui prime en toute chose. C'est ça l'humilité. Accepter que Dieu va fermer certaines portes et qu'il va en ouvrir d'autres, peut-être des portes qu'on n'avait pas imaginées. Parce que bien souvent, nous attendons devant une porte fermée que nous demandons, Seigneur, ouvre cette porte. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, finalement, on se heurte à un mur parce que Dieu n'ouvrira pas. Par contre, il a ouvert une autre porte et nous tardons à y entrer. Eh bien, nous ne pouvons pas forcer Dieu à changer d'avis et de dire, Seigneur, ouvre plutôt celle-ci et ferme l'autre. Mais si Dieu a décidé que c'est celle-ci qui doit être fermée et l'autre qui soit ouverte, ce n'est pas nous qui allons faire changer Dieu d'avis, mais c'est à nous de mettre notre avis sur l'avis de Dieu, parce que si Dieu a dit non, eh bien il faut l'accepter. Je pense à Moïse. Moïse qui a été très durement sanctionné à cause d'une désobéissance. Il avait conduit le peuple hors d'Égypte, il avait vu des miracles, mais à un moment donné, il n'a pas respecté la parole de Dieu. Au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. Et le texte dit dans Deutéronome 3, 26, « Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. » On voit que là, Dieu, il a mis un non ferme à Moïse, voilà. Pour toi, c'est comme ça, et ne me parle plus de cette affaire. Ça veut dire qu'à un certain moment, quand Dieu dit non, c'est non. Et qu'il faut accepter cette parole. Et Moïse a dû l'accepter. Mais l'orgueil, au contraire, si l'orgueil domine, eh bien, il va vous pousser à vous rebeller contre Dieu, à mépriser la décision de Dieu, à rejeter le conseil de Dieu, parce que l'orgueil vous poussera à prier pour des mauvais besoins. Par exemple, Jacques chapitre 4, verset 3, vous demandez, donc on voit bien qu'il prie, vous demandez dans la prière, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Et si on prie pour satisfaire nos propres passions, donc on ne prie pas selon la volonté de Dieu, cette prière ne sera pas agréée, ce n'est pas la prière d'un cœur humble, on le voit bien dans Jacques, ce n'est pas une prière qui plaît à Dieu, mais notre prière doit être comme un parfum de bonne odeur qui monte vers le Seigneur, et c'est celle-là qui est agréée par Dieu. Donc vous voyez, j'ai pris quelques exemples pour montrer dans la parole que la prière seule ne suffit pas. Il nous faut ajouter différents éléments, que ce soit la foi, que ce soit le pardon, que ce soit l'obéissance, que ce soit ici l'humilité. Mais n'imaginons pas que ça y est, j'ai fait ma prière et maintenant je suis quitte, je fais ce que je veux. Non, c'est déjà bien de prier, c'est vrai. Que Dieu soit béni pour tous ceux qui ont franchi ce cap. Mais si vous, même si vous êtes devenu un disciple, vous avez pris au sérieux la parole, réalisez que la prière à elle seule ne suffira pas et qu'il faut y ajouter maintenant l'obéissance, la soumission. On va prier quelques instants et demander au Seigneur de nous remplir de sa parole, de ses directives qu'il a pour nos vies, afin que nous réalisions que nos prières doivent être accompagnés de foi. Nous voulons croire, Seigneur, que ta parole est certaine et que tu nous enseignes le chemin de la prière efficace. Cette prière qui nous permet d'obtenir des bénédictions et grâce sur grâce, victoire sur victoire. Seigneur, nous voulons ajouter la foi à la prière, comme ta parole nous l'enseigne, à croire dans toutes tes promesses, à rejeter de notre esprit, de notre cœur, le doute, l'incrédulité qui nous affaiblit, qui rend inopérantes nos prières. Seigneur, nous voulons te demander de nous fortifier ce matin dans la foi afin de croire, Seigneur, dans l'impossible et dans le Dieu du miracle. Seigneur, nous voulons aussi ajouter le pardon à la prière, comme nous l'avons vu. Quand vous êtes debout, Jésus dit, quand vous êtes debout, pardonnez. Et nous voulons pardonner pour que ces prières soient agréées de Dieu, afin de ne pas garder de la rancune dans nos cœurs, afin de ne pas en vouloir à l'un, à l'autre, à vouloir régler des comptes, à être médisant, mais à pardonner, à libérer, parce que ta parole nous rappelle que si nous pardonnons, nous serons pardonné par Dieu. Nous voulons ajouter aussi l'obéissance à la prière. Ô Seigneur, pour faire ce que tu as prévu pour nos vies et ne pas nous contenter de prier seulement et de faire notre volonté, mais vraiment de chercher à faire tout ce qui te plaît, tout ce qui t'honore, et que ton cœur soit réjoui. Et nous voulons ajouter l'humilité, Seigneur, en disant, si tu le veux, que ta volonté soit faite et non la nôtre. Apprendre, Seigneur, à dépendre entièrement de toi et à ne pas simplement prier pour des désirs qui sont inconsidérés, comme Jacques l'évoque, des désirs charnels, des désirs humains. Ce n'est pas la prière que tu agrées parce que c'est des demandes qui sont mal formulées, mais nous voulons rester humbles et avoir des prières selon ton cœur et être vraiment dans la pensée de l'Esprit. Oui, Seigneur, en toutes choses, nous te rendons gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.